Nous sommes à vos côtés, c'est le message passé par la ministre chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin, lors du forum économique sur la Nouvelle-Calédonie qui se tenait à Bercy et à Nouméa en visioconférence hier. C'est Manuel Valls qui a pris la parole pour conclure ce forum économique. Le ministre des Outre-mer qui a annoncé qu'il viendra d'ici quelques semaines en Calédonie pour mener des discussions ou, espère-t-il, des négociations en vue d'un accord politique. Le choc et l'émotion à Épernay-sur-Orge en région parisienne. Le corps sans vie d'une fillette de 11 ans a été retrouvé dans une forêt de la commune. Elle avait disparu vendredi à la sortie de l'école. 3 otages israéliens détenus par le Hamas ont été libérés hier soir pour nous. 3 hommes qui sont apparus très amaigris lorsqu'ils ont été exhibés par les terroristes islamistes. Le sport et le rugby est terrible. Fin de match pour l'équipe de France à Twickenham. Le 15 tricolore battu d'un point 26-25 à la dernière minute de jeu par l'Angleterre lors de la deuxième journée du tournoi Destination. Et puis en Calédonie, la Ligue de Vaille de canoë-kayak souhaite poursuivre sa saison sportive malgré l'incendie survenu dans ses locaux à l'artillerie. La Ligue qui tenait une assemblée générale hier matin. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal. Une importante séance de travail hier à Bercy et à Nouméa. Le forum économique sur la Nouvelle-Calédonie s'est ouvert à 18h, hors de Nouméa. Après un mot d'introduction du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, c'est la ministre chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin, qui a ouvert les travaux au ministère de l'Économie et des Finances et en visioconférence depuis l'auditorium de la Chambre de Commerce et d'Industrie, Michael Juneski.
Devant notamment les délégations venues à Paris pour les réunions bilatérales concernant l'avenir institutionnel, mais aussi les représentants des collectivités et du monde économique. Elle a rappelé le soutien sans faille de l'État et notamment tous les dispositifs mis en œuvre depuis les violences insurrectionnelles de mai, ainsi que ceux inscrits dans le budget de l'État pour 2025. La ministre chargée des comptes publics déclare que la mobilisation financière exceptionnelle de l'État pour la Nouvelle-Calédonie en 2025 doit amorcer une nouvelle dynamique pour l'économie et plus globalement pour l'avenir du territoire. Amélie de Montchalin affirme que le soutien de l'État à la Nouvelle-Calédonie ne se démentira pas dans les années à venir.
D'abord, peut-être rappeler le soutien sans faille de l'État à la Nouvelle-Calédonie dans les situations d'urgence, que ce soit pendant la crise sanitaire du Covid, pendant la crise qui a touché le territoire en mai dernier, je vais y revenir, ou dans le cas de la relation entre l'État et la collectivité de Nouvelle-Calédonie. C'est pour moi un motif de fierté et d'espoir que de voir que les liens entre l'Hexagone et la Nouvelle-Calédonie sur toutes ces dimensions sont à la fois des liens continus et des liens solides. Donc je veux le dire ici vraiment avec force et avec solennité, nous sommes à vos côtés et je veux vous redire l'admiration que nous avons pour la force, la résilience remarquable dans cette période particulièrement éprouvante qui force notre admiration et qui, je crois, explique la grande détermination de cette solidarité nationale à se poursuivre. L'accompagnement de l'État, on le voit, ne s'est pas démenti et il ne se démentira pas dans les prochaines années. Il y a un précepte que je m'applique très profondément, c'est celui de l'optimisme, de la volonté. Et en vous voyant et en nous voyant ce matin, je suis, je crois, ici persuadée qu'il y a une réelle volonté d'agir et qu'à ce titre, nous pouvons être optimistes pour la Nouvelle-Calédonie.
Après une prise de parole du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Alcide Ponga, les travaux se sont poursuivis à huis clos pendant près de 3 heures et c'est Manuel Valls qui a ensuite prononcé le discours de clôture. Il a d'abord rappelé que l'État avait conscience des enjeux pour la Nouvelle-Calédonie.
Nous n'ignorons rien de la situation particulièrement difficile dans laquelle le territoire est aujourd'hui placé. Les événements qui se sont déroulés à partir du 13 mai ont été dramatiques. D'abord, il ne faut jamais l'oublier, parce que le sang a de nouveau coulé en Nouvelle-Calédonie. Et puis, de nombreuses infrastructures, entreprises et emplois ont été détruits. L'économie de la Nouvelle-Calédonie, et cela m'embête évidemment de le redire, de le souligner, car nous devons faire passer aussi un message d'optimisme, mais incontestablement est dévastée. Les indicateurs de l'IEOM sont parlants, même si ils indiquent aussi la petite lumière au bout du tunnel.
Manuel Valls a ensuite évoqué un moment charnière de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et la reprise des discussions sur l'avenir institutionnel. Il a ensuite fait part de 3 convictions.
La première, c'est qu'il ne peut pas y avoir de relèvement économique sans un compromis politique. Tout comme il ne peut pas y avoir de solution politique durable sans relèvement économique. La seconde, c'est que l'avenir du territoire peut et doit s'écrire avec toutes les forces vives, donc avec le monde économique, avec les partenaires sociaux. Et pour bâtir cet avenir, nous devons être très attentifs à la solidarité. Et nous devons être peut-être encore plus attentifs à l'avenir de la jeunesse. Les violences de mai dernier, au-delà des soubassements politiques, sont un signal d'alerte. Et ce signal d'alerte, il concerne tout le monde. Et la troisième conviction, c'est que l'État doit être présent pour que le marasme économique ne puisse pas se transformer en désastre social, qui lui-même accentuerait les fractures politiques. Le soutien de l'État, des territoires touchés par des phénomènes naturels, c'est le cas Mayotte, ou par des phénomènes surnaturels, c'est-à-dire humains, en Nouvelle-Calédonie. Et nous sommes présents, malgré l'état de nos finances publiques.
Emmanuel Valls a ensuite passé en revue les enjeux pour le territoire, et notamment la mise en place de réformes robustes concernant les dépenses publiques, le système de santé ou encore l'accompagnement de filières structurantes pour le territoire comme le nickel, les nouvelles technologies ou encore le tourisme, sans oublier l'insertion de la Nouvelle-Calédonie dans son bassin régional. Pour Emmanuel Valls, l'économie et la politique sont deux piliers essentiels pour apporter de la stabilité au territoire, et les défis sont nombreux.
Les échanges que nous avons pu avoir ce matin dessinent l'ampleur des défis qui se présentent nous. Moi, j'en prends toute la mesure et je le redis avec gravité, mais nous devons y aller avec beaucoup de détermination. Nous devons être ensemble au rendez-vous du moment historique que nous vivons. Il faut un accord, un compromis, un chemin politique commun pour soutenir l'économie et pour tous les Néo-Calédoniens, pour tous, un avenir institutionnel qui donne de l'espoir à tous nos compatriotes calédoniens pour la paix, pour la concorde à travers le consensus. Et vous avez bien compris que le gouvernement de la France sera à vos côtés, quoi qu'il arrive. Nous prendrons absolument nos responsabilités. Dans quelques semaines, le quelque temps en cours, j'aurai l'honneur et le plaisir de me rendre en Nouvelle-Calédonie pour poursuivre les discussions politiques, les négociations, j'espère, et pour évidemment évoquer les questions que nous avons traitées ce matin.
Christopher Gégès, membre du gouvernement en charge de l'économie, a assisté à ce forum depuis Nouméa et il est ressorti satisfait des messages de l'État.
L'État s'engage à soutenir la Nouvelle-Calédonie. Ça a été dit plusieurs fois par le ministre d'État, Manuel Valls, que l'État serait aux côtés de la Nouvelle-Calédonie. On a eu des réponses sur la question des assurances où on devrait avoir une réponse rapidement, des engagements aussi sur le financement du chômage partiel et du chômage de droit commun, donc des engagements qui restent à matérialiser maintenant lors de la visite de Manuel Valls en Nouvelle-Calédonie. On souhaite vraiment travailler main dans la main avec l'État, avec les différents partenaires politiques. On voit que tous les partenaires politiques étaient autour de la table, indépendantistes comme non-indépendantistes. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on travaille ensemble à reconstruire la Nouvelle-Calédonie. C'était un sujet qui était extrêmement important. L'engagement des ministres était affiché. Maintenant, il faut que ça se matérialise à la fois sur les assurances, sur la reconstruction, sur les investissements qui ont été prévus. Donc je crois que les chefs d'entreprise attendent ça.
Les représentants des chambres consulaires et des partenaires sociaux ont assisté à ce forum, soit depuis Bercy, soit depuis Nouméa. Stéphane Yoto, élu à la CCI, retient que le monde économique sera consulté sur la relance de l'économie et sur la réforme du modèle social de la Nouvelle-Calédonie. Et même si NCECO espère être davantage entendu, c'est déjà une bonne chose.
J'ai bien ressenti que l'économie était importante, mais malgré tout, j'ai quand même senti, et notamment dans la conclusion de Manuel Valls, une prépondérance de la politique. Elle est nécessaire, hein, tant qu'on n'aura pas cet accord qui nous permettra de regarder l'avenir avec, avec optimisme, on ne fera pas grand-chose au niveau économique. Alors on est consulté parce que quand même on a mis le pied dans la porte et puis qu'on a poussé un petit peu fort, mais oui, on est consulté, c'est un motif de satisfaction, oui, tout à fait. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir un format dans lequel on puisse régulièrement échanger. On l'a vu mercredi, on a échangé avec Bercy et on a bien vu que certains commentaires montraient une méconnaissance du terrain. Et c'est là-dessus où, que ce soit avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi avec les acteurs métropolitains, qu'on puisse avoir des réunions régulières pour parler tous de la même voix et avoir la même compréhension des enjeux.
Parmi les priorités, Stéphane Yoto, élu à la CCI, retient la question des assurances qui doivent dédommager les entreprises et continuer à couvrir les risques, mais aussi la transformation en chantier des aides de l'État pour la reconstruction des bâtiments publics notamment. Du côté des syndicats de salariés, Christophe Coulson, le président de l'UTCFE-CGC, a dressé un bilan très positif de ce forum.
C'est une très bonne première réunion, oui. Je crois que l'État nous a garanti ce soir qu'il serait à nos côtés dans toutes les circonstances. Et je crois que c'est très important, notamment pour redonner de la stabilité politique et économique à la Nouvelle-Calédonie. Beaucoup de choses à faire, hein. On parle de relance économique, donc il faudra voir quels sont les secteurs sur lesquels il faudra qu'on soit présent en matière de formation, d'emploi. Et puis travailler également sur ce qu'on nous annonce depuis longtemps, la dépense publique, qui aujourd'hui reste un domaine vaste et pour lequel on a besoin de précision.
Christophe Coulson, le président de l'UTCFE-CGC, au micro de Nicolas Legrand, à l'issue de ce forum économique qui s'est donc déroulé simultanément à Paris et à Nouméa en visioconférence.
Et vous l'avez entendu il y a quelques instants, c'est la ministre chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin, qui a donc ouvert ce forum économique. Lors de son intervention, la ministre a fait plusieurs annonces fortes, notamment pour les communes du territoire. Parmi ces annonces, une garantie de l'État pour les prêts attribués aux communes par l'Agence française de développement pour un montant d'1 milliard d'euros, 8 milliards 330 millions de francs sur 3 ans. Écoutez Pascal Vittori, le maire de Boulou-Paris, qui est président de l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie. Vendredi, on en parlait dans nos éditions, dans une lettre ouverte, il avait demandé à ce que l'État garantisse les futurs emprunts contractés par les communes.
Ça, c'est une mesure très importante. C'est celle que je défendais au nom de l'Association française des maires, parce que c'est cette mesure qui va permettre aux communes d'emprunter et donc de pouvoir lancer des investissements et donc redonner des travaux à faire aux entreprises calédoniennes, puisque j'avais été alerté par la fédération du BTP qui m'indiquait que les carnets de commandes étaient vides, que les entreprises ne pouvaient plus tenir et qu'on risquait de perdre à nouveau 2 à 3 000 emplois. C'est très important parce que les communes sont les collectivités qui sont capables d'investir le plus rapidement et qui ont le meilleur taux d'exécution de leurs travaux. On peut très rapidement débloquer des budgets, lancer des travaux et donner de l'activité. C'est pour ça que pour la relance économique de la Nouvelle-Calédonie, c'est fondamental que les communes puissent accéder à ces prêts. Et je remercie encore l'État, le ministre Valls qui s'était engagé sur le sujet auprès de moi, et Madame Amélie de Montchalin, la ministre chargée des comptes publics.
Pascal Vittori, le maire de Boulou-Paris et président de l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie, que nous avons joint à Paris, où il assistait à ce forum économique. J'ajoute que la ministre en charge des comptes publics a également annoncé hier le déblocage de 200 millions d'euros, soit un peu plus d'1 milliard 600 millions de francs pour la reconstruction des écoles incendiées ou vandalisées lors des émeutes du mois de mai dernier. Rappelons que ce forum économique était organisé dans le cadre des discussions sur l'avenir institutionnel. Et à propos de ces discussions, rappelons également que tard hier soir, les délégations du Rassemblement et des Loyalistes ont été reçues ensemble par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Écoutez la réaction de Virginie Rufnac à l'issue de cette rencontre.
Aujourd'hui, l'État fait des bilatérales et il garde la confidentialité sur les propos que tiennent chacun des groupes politiques dans le cadre de ces bilatérales pour sécuriser et donner la confiance aussi aux acteurs politiques dans la parole qu'ils délivrent auprès de l'État. C'est plutôt une bonne chose. Il est prévu qu'une synthèse, en toute transparence, soit faite par le ministre, lundi probablement. En tout cas, c'est ce qui nous a été plus ou moins annoncé lors de cette bilatérale. Nous sommes favorables à ce qu'une synthèse soit réalisée, finalement par l'État, pour faire un point de situation, avant évidemment de repartir à Nouméa et avant la venue du ministre à Nouméa, qu'on nous annonce sans doute probablement autour du 20 février. Vous le savez, le temps est compté, nous avons jusqu'au 31 mars pour trouver des solutions. Il nous faut les trouver pour les Calédoniens, pour redonner espoir à la Calédonie. Et c'est vraiment notre engagement ici à Paris, de l'ensemble des délégations.
Virginie Rufnac pour le Rassemblement au micro RRB, notre correspondant à Paris, Xavier Robert. Nous reviendrons sur ce forum économique et sur les discussions sur l'avenir institutionnel. Tout à l'heure dans notre journal de la mi-journée, vous entendrez notamment les réactions des participants au forum économique qui étaient hier à Paris. Alors, avant de marquer une première pause dans le journal, une actualité un peu plus légère, direction la place de la mairie de Farino qui accueillera toute la matinée le marché de mamie, marché qui va jouer les cupidons à quelques jours de la Saint-Valentin. L'occasion évidemment de partager un moment convivial, de découvrir les produits locaux et du terroir, fait bien évidemment avec amour. Ghislaine Arly est la responsable du marché de mamie.
Ben en fait, on va prendre un peu d'avance et puis ben on va fêter la Saint-Valentin, tout simplement, parce que voilà, nous sommes tous heureux, nous sommes tous contents de recevoir des gens qui s'aiment, des gens qui se promènent et qui viennent nous rendre une petite visite et sont heureux. Donc, comme le 14 tombe en pleine semaine, nous allons fêter. On affichera des cœurs partout et puis voilà, pour rendre les gens heureux. Donc, en ce moment, il y a pas mal de légumes, des légumes de saison. Alors, une grande nouvelle, c'est que les crabes sont de retour. Hein. Les crabes, c'est important parce que tous nos clients qui viennent de Nouméa, bien sûr, donc sont à la recherche de crabes. Alors là, ça fait 2 mois qu'on n'en a pas mangé, donc on va se précipiter. Il y aura du poisson aussi. Et puis, comme d'habitude, sur tous les produits locaux, très diversifiés, les confitures, les sirops, les achats, en fait, tous ces produits-là. Et puis, de l'artisanat local. Là, ce mois-ci, il y aura un tourneur sur bois qui viendra non seulement vendre, mais faire des démonstrations. Donc, ça mettra un peu d'animation.
Et le marché de Mamie, c'est donc de 8h à midi. Et c'est bien évidemment sur la place de la mairie de Farino. Il est 7h et pratiquement 16 minutes. On va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Tricodex s'engage à vos côtés. 40% des déchets plastiques sont des déchets à usage unique. En 2040, leur production devrait doubler. Pour protéger notre île, la province sud a réglementé la nouvelle filière REP de collecte et traitement des déchets d'emballage. Tricodex et ses producteurs adhérents se mettent en ordre de marche pour le lancement de la filière. Entreprises, consommateurs, ensemble, agissons. Pour plus d'informations, Tricodex au numéro vert 05 28 28 ou sur tricodex.nc.
Jusqu'au vendredi 7 mars, jouez avec Créator et tentez de gagner un magnifique collier en perles de Tahiti. Un cadeau d'une valeur de 120 000 francs. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance au 40-20. Venez découvrir nos bijoux dans vos 3 magasins Créator, Centre-Ville Alma, Hyper Upaïta et 7e kilomètre. Créator, des bijoux pour toute la famille et tous les budgets. Des bagues, des colliers, des perles et des diamants. Alors pour tenter de gagner ce magnifique collier en perles de Tahiti offert par Créator, envoyez chance au 40-20. Tirage au sort le vendredi 7 mars à 14h, 371 francs par SMS sur Radio Rythme Bleu. Il n'y a pas de jour sans jeu. Vendredi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Pensez à réserver votre table au restaurant Le Bilboquet Plage au 26 46 60. Retrouvez les suggestions spéciales Saint-Valentin sur la page Facebook Le Bilboquet Plage.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La Suite Info au week-end, Lionel Sabot.
Et l'actualité en métropole, marquée ce matin par les découvertes du corps d'une très jeune fille de 11 ans. Louise avait disparu vendredi à la sortie de son collège d'Épinay-sur-Orge. C'est en région parisienne. Un couple a été placé en garde à vue. Il s'agit d'une jeune femme de 20 ans et d'un homme de 22 ans qui serait connu des services de police. Une autopsie est en cours pour déterminer les causes du décès de la fillette. Sur place, à Épinay-sur-Orge, c'est le choc. Une messe en hommage à Louise s'est tenue tôt ce matin pour nous. Et de nombreuses personnes se rendent en ce moment même devant le collège où était scolarisée Louise pour lui rendre hommage. Caroline Baudry pour Europe 1.
Des fleurs ont été déposées devant les grilles de l'établissement, mais aussi des petits mots. Une photo de Louise, longs cheveux châtains et yeux rieurs devant ses gâteaux d'Halloween. À Rouen, une élève de 4e pose un dessin et vacille.
On était dans le CVC, donc c'était l'organisation qui préparait les fêtes au collège. On passait du temps ensemble. Elle était timide, elle était beaucoup entourée de ses amis et elle était souriante tout le temps. Il y en a beaucoup du CVC qui ont essayé de la chercher dans la rue où on l'a vue la dernière fois. Bah, ça ne menait à rien. Elle était jeune, elle n'aurait pas dû mourir si jeune, quoi.
Un peu plus bas dans la rue, une messe a été donnée dans la chapelle de la ville. Le lieu de culte est bondé. Quelques centaines de personnes sont amassées devant. Des familles sous le choc, comme Xavier, venu avec ses 3 enfants.
C'est des enfants et on n'a pas le droit de faire ça à un enfant, on n'a pas le droit de faire ça tout court, mais c'est d'autant plus difficile quand c'est un enfant. Et il y a pas mal de colère dans les parents et ça arrive que les enfants soient seuls et on se pose beaucoup de questions. Ça aurait pu être n'importe qui. Ça va peut-être changer la façon dont on voit la liberté des enfants. C'est dommage.
Ça n'arrive pas qu'aux autres, lâche des parents, la voix étranglée. Beaucoup sèchent leurs larmes dans un silence de plomb. Ici, tout le monde se connaît, disent-ils, tout le monde est effondré.
Caroline Baudry à Épernay-sur-Orge pour Europe 1. Dans ce dossier, on le disait, 2 personnes ont donc été placées en garde à vue. Il s'agit d'une jeune femme de 20 ans et d'un homme de 22 ans qui serait connu des services de police, notamment pour des faits de violence. 2 premières interpellations pour lesquelles il faut rester extrêmement prudent, explique Axel Rond du syndicat de police CFTC.
Les vérifications sont actuellement réalisées par les enquêteurs pour savoir si oui ou non ils ont participé à la mort de la petite Louise. Mais actuellement, il faut rester extrêmement prudent car rien ne prouve que ces personnes sont impliquées de près ou de loin dans cette affaire.
Alex Heron du syndicat de police CFTC qui appelait à la prudence. Et l'on apprend à l'instant que la garde à vue de cette jeune femme et de ce jeune homme de 22 ans a été levée il y a quelques instants, donc sans poursuite pour ces deux personnes. Venons-en à l'actualité à l'étranger avec la libération de trois nouveaux otages du groupe terroriste islamiste Hamas à Gaza. Or Lévy, Eli Sharabi et Oad Benami ont été libérés dans une mise en scène une nouvelle fois cynique et abjecte. Les trois hommes sont apparus très amaigris au moment où ils ont été exhibés sur une estrade à Gaza par les islamistes du Hamas. Frédéric Simon pour Europe 1.
Les trois anciens otages ont été pris en charge par les équipes médicales et psychologiques dans les hôpitaux vers lesquels ils avaient été héliportés dans la matinée. Pour l'heure, aucun bilan précis de leur état de santé n'a été communiqué, mais des médecins ont confirmé ce qui était visible dès les premières images de leur libération. Oad Benami, 56 ans, Or Lévy, 34 ans, et Eli Sharabi, 52 ans, souffrent de sous-alimentation, d'une sous-alimentation extrême, selon les termes d'un spécialiste. Les médecins redoutent de découvrir d'autres pathologies liées à leur longue période de captivité, 15 mois sans aucune ou presque exposition à la lumière du jour. La condition physique détériorée des trois hommes a choqué les Israéliens. Certains ont même évoqué les images des survivants des camps de la mort nazis. Pour les familles des otages encore détenus à Gaza, l'état physique des trois hommes libérés aujourd'hui constitue une preuve de plus de l'urgence de parvenir à la libération de tous les captifs. Quant au Premier ministre Benjamin Netanyahu, eh bien, il a réagi en affirmant que les mauvais traitements infligés aux otages et l'humiliation qu'ils ont dû subir dans la mise en scène orchestrée par le Hamas au moment de leur libération ne resteront pas sans réponse. L'inquiétude concerne également la situation psychologique des anciens otages. Deux d'entre eux ignoraient que leurs proches avaient été assassinés le 7 octobre, l'épouse d'Or Lévy ainsi que l'épouse et les deux filles d'Eli Sharabi.
Frédéric Simon, le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv, j'ajoute qu'après la libération de ces trois otages par le Hamas, Israël, en vertu de l'accord de cessez-le-feu signé il y a quelques semaines avec le groupe terroriste, a libéré 183 prisonniers palestiniens, dont 111 condamnés pour actes de terrorisme après l'attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023. L'actualité dans la région Pacifique, en Australie, la pluie malheureusement continue de tomber dans les régions déjà inondées du North Queensland, où deux personnes ont perdu la vie. Correspondance, Jean-Pierre Zajac.
Ces deux morts accidentelles, survenues à trois jours d'intervalle, ont incité les autorités à renouveler leurs appels à la plus grande prudence. Certaines régions du Nord Queensland ont reçu plus de 2 mètres de pluie ces deux dernières semaines et les crues qui en ont résulté sont les plus graves à y avoir été enregistrées en 60 ans. En plus des villes et villages inondés par dizaines, les cultures ont été dévastées, le trafic ferroviaire est interrompu, les aéroports sont fermés et des centaines de routes disparaissent sous les eaux. Des équipes du génie militaire ont établi un pont provisoire sur l'axe routier qui relie Brisbane à Cairns afin de permettre l'acheminement de vivres dans les régions les plus touchées, où les hélicoptères de l'armée ont également été mis à contribution. Les prévisions météo, malheureusement, sont toujours à la pluie, avec des chutes de l'ordre de 200 à 300 mm par endroit, au moins jusqu'à lundi. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 7h23, on va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité sportive. Avec cette défaite rageante de l'équipe de France à Twickenham pour le tournoi des Six Nations. Puis nous ferons un point également sur la météo de votre dimanche. A tout de suite.
Des piqûres regroupées ou alignées sur votre peau qui vous démangent. Ce sont des punaises de lit. Pensez Formula 4D, les punaises maîtrisées par une équipe appliquée. Info sur formula4d.com.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Lionel Sabot.
Oui, à la une de l'actualité sportive du rugby, bien évidemment. Avec le 15 de France qui s'est incliné en Angleterre pour le compte de la deuxième journée du tournoi des Six Nations.
Performance, dépassement de soi, passion. Entrez dans la mêlée des pages spéciales tournoi des Six Nations sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. OPT, le monde à portée de main.
Et c'est la fin d'une série de trois défaites de suite contre les Bleus pour le 15 de la Rose. L'Angleterre s'est donc imposée. Mais alors, au bout du suspense, à Twickenham, Michael Gineski.
Le dernier essai dans la dernière minute de la rencontre a donc donné la victoire aux Anglais. Mais ce sont bien les erreurs, les maladresses, les imprécisions des Bleus en première mi-temps qui coûtent la victoire aux Français et qui mettent fin au rêve de réaliser le Grand Chelem cette année pour le 15 de France. Ils s'inclinent 26 à 25. Dominateur dans le premier acte, mais avec des occasions d'essais avortés, des en avant, des passes manquées, pas moins de 15 fautes de main. Eh bien, les Français ont eu affaire ensuite à des Anglais plus réalistes, sans avoir à briller. 4 essais en faveur des Britanniques contre 3 pour les Bleus. Beaucoup de frustration, évidemment, pour le capitaine tricolore Antoine Dupont.
On peut s'en prendre qu'à nous. On a surtout la première mi-temps qui. Beaucoup de regrets, on doit marquer au moins 3 essais et le match n'est plus le même après. Ils ont été pragmatiques, ils ont marqué à chaque fois qu'ils sont venus chez nous. Et nous on a mangé trop d'occasions. On sait qu'à ce niveau-là, si on ne les met pas au fond, on ne gagne pas le match à la fin. Mais ils n'ont pas eu un ballon de la première mi-temps, je pense, c'est là où ça a glissé le plus. Et oui, le ballon glissait beaucoup, mais bon, on a déjà fait des 3 matchs et des entraînements avec un ballon qui glissait. Donc je ne sais pas pourquoi ce coup-ci ça n'a pas fonctionné, mais en tout cas c'est beaucoup de regrets parce qu'on a, je pense qu'on a produit un beau rugby, qu'on les a mis en danger beaucoup de fois, mais malheureusement on n'a pas marqué assez.
Et Biel Biarré avait pourtant réussi à ouvrir le score sur un essai à la demi-heure de jeu avant que les Anglais ne reviennent au score 6 minutes plus tard. Dans le deuxième acte, le 15 de la Rose s'est montré plus efficace pour répondre coup sur coup et repasser à chaque fois en tête. Un essai de Freeman à la 58e avant que Damien Penaud n'aille aplatir juste après l'heure de jeu. Un essai de Baxter à la 70e, puis Biel Biarré encore lui est reparti concrétiser un temps fort du 15 de France à la 75e minute de jeu. Et le dernier essai de délai transformé par Smith à la 79e minute qui apporte donc la victoire à l'Angleterre. Beaucoup d'amertume également pour l'ouvreur des Bleus, Thomas Ramos.
On savait que ça allait être une équipe joueuse, mais au-delà d'une équipe joueuse, je pense que nous, en première mi-temps, on a fait ce qu'il fallait pour marquer des points et des essais. Et malheureusement, on ne l'a pas fait, on n'a pas concrétisé. Donc, au-delà du match qu'ils font et du fait qu'ils aient rien lâché tout le match, je crois qu'aujourd'hui, c'est notre première mi-temps qui nous met dedans. Quoi.
Voilà pour la déception de l'arrière des Bleus, Thomas Ramos. Avec ce résultat, le 15 de France n'est plus invaincu. Et cette défaite, malgré le bonus défensif, pour écouter la victoire finale dans le tournoi des Six Nations au 15 de France, il faudra attendre désormais de voir la performance de l'Irlande qui affrontera la nuit prochaine l'Écosse à Murrayfield à partir de 2h du matin pour nous. L'autre résultat du jour, c'est la victoire de l'Italie sur le Pays de Galles 22 à 15. Les Gallois qui risquent une nouvelle fois de terminer la compétition avec la cuillère de bois.
Jusqu'au 15 mars, suivez le tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT.
Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Allez, on passe au football avec Nice qui est monté ce matin bien provisoirement sur le podium du championnat de France, Mickaël.
Les Niçois se sont imposés face au RC Lens 2-0. Conséquence, ils éjectent Monaco de la 3e place. Les Monégasques battus hier par le PSG 4-1. Et Lille, de son côté, n'a pas réussi à profiter de cette situation face au Havre. Les Lillois se sont inclinés 2-1. Le dernier match du jour concerne cette fois le bas du tableau. L'AS Saint-Etienne en 16e position qui reçoit Rennes, le 15e du championnat de France. Les écarts sont très serrés dans ce bas de tableau. Les deux formations pourraient aujourd'hui profiter d'une victoire pour sortir de la zone rouge aux dépens de Nantes qui a perdu hier contre Brest 2-0. Et après 20 minutes de jeu, le score est de 1-0 en faveur de Rennes.
promo pour arrêter ce journal. Le sport côté calédonien avec du VAR et la Ligue qui tenait son assemblée générale ce samedi matin, l'occasion d'évoquer l'incendie survenu dans la nuit de jeudi à vendredi dans ses locaux à Nouméa.
Les instances de la discipline ont fait le point sur les dégâts causés et surtout sur les impacts pour les activités de la Ligue. Malgré cet incendie, les rameurs comptent sur la solidarité des clubs et de l'ensemble du monde sportif afin de continuer la saison et de pouvoir préparer les grandes échéances avec notamment les mini-jeux du Pacifique en ligne de mire. Caroline Chantreux, la présidente de la Ligue calédonienne de VAR et de canoë-kayak.
Nos priorités, là, c'est de lister tout notre matériel pour pouvoir continuer à faire nos compétitions. On doit se voir le plus rapidement possible afin d'établir tout ça. Et après, voir... faire appel au club, aux ligues, au plus de monde possible pour essayer de nous prêter du matériel. On va faire le maximum pour qu'on maintienne toutes les compétitions comme c'était prévu. Dans les jours à venir, on va essayer de rencontrer, de faire des courriers un peu partout et de rencontrer les institutions pour essayer de trouver une solution pour que notre sport continue à vivre.
L'ensemble des dirigeants du VAR aujourd'hui, du VAR et du canoë-kayak, dans quel état d'esprit sont-ils après ce qui s'est passé ?
Le découragement total, je crois que pour tous, la désolation, pas de mots, pourquoi le sport, pourquoi, voilà. On va rester positif, on va se reconstruire tout doucement, on prendra le temps qu'il faudra, on baisse pas les bras, et il faut, on a tous les licenciés qui sont derrière nous.
Caroline Chantreux, la présidente de la Ligue calédonienne de VAR et de canoë-kayak. J'ajoute que l'enquête se poursuit pour tenter d'identifier les auteurs de cet incendie survenu dans la nuit de jeudi à vendredi à la pointe de l'artillerie à Nouméa.
Allez, un coup d'œil au reste de l'actu sport en Calédonie, Mickaël.
Oui, il y avait du foot volé à Pointe-Imier hier. Compétition organisée sur la plage du Tieti avec 25 équipes chez les confirmés, 10 équipes jeunes et féminines présentes. La victoire est revenue chez les confirmés au duo Rissoué-Marvin Dawilo, ce dernier qui avait déjà gagné la première édition de ces journées foot volley organisé par Foot NC en 2024. Et puis, il y a du tennis au menu ce dimanche sur les terrains de la Ligue du Wentoro avec les finales des interclubs adultes et notamment dans la poula de la Division 1, l'équipe Fagnon du Tennis Club du Récéming qui sera opposée à l'équipe numéro 1 du TC Olympique.
Et nous terminons ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous, Nicolas.
Alors, tout d'abord, vigilance jaune pour vent violent, pour un vent de secteur nord-ouest qui se renforcera la nuit prochaine du 20 à 25 nœuds, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 35 nœuds sur Bélep, la pointe nord-est, Ouvéa et Lifou. Vigilance jaune pour fortes pluies et orages, pour un risque de fortes averses localement orageuses, cet après-midi, sur Bélep, le nord-est et Ouvéa, gagnant toute la façade est, Lifou et Marée la nuit prochaine. Le temps, alors ce matin, le temps sera souvent gris. Sur Bélep, le nord-est et Ouvéa, les averses pourront être modérées à localement fortes. Ailleurs, les pluies seront faibles et intermittentes. Un vent d'est-sud-est de 10 à 15 nœuds dominera. Sur la pointe nord Bélep et Ouvéa, il sera de secteur nord-est. Cet après-midi, le ciel restera couvert. Sur l'extrême nord, les loyautés et l'est, les averses seront fréquentes et parfois fortes. Sur les autres régions, les pluies seront plus faibles et intermittentes. Sur le nord des loyautés, la pointe nord et le nord-est, le vent de secteur nord variera de 10 à 15 nœuds. Le manteau nuageux diminuera les températures maximales qui seront à la baisse entre 27 et 29 degrés, Lionel.
Du mauvais temps, l'équipe de France qui perd en Angleterre et Saint-Etienne qui est menée à Rennes. Quel dimanche fabuleux. Mais c'est la fin de ce journal.
C'est pas fini pour Saint-Etienne.
C'est pas fini. C'est la fin qu'on paye les artistes. La fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec grand plaisir à partir de 8h. Très belle matinée et excellent dimanche sur RRB.
À tout à l'heure, Lionel.